Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La gratuité n'a pas bonne presse et pourtant elle s'invite de plus en plus dans notre quotidien. Covoiturage, culture libre, bibliothèque publique, habitat collectif, tiers-lieux ou commun. Nombreuses sont aujourd'hui les initiatives qui incitent à plus de partage, de solidarité, voire même de gratuité donc. Comment comprendre cette tendance? Que dit-elle de notre époque? Quelles sont ces initiatives? Je vous propose ce matin un éclairage sur ce que l'on aimerait être en partie le monde de demain. Économie du partage, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, en ce vendredi, où on s'essaye donc à des sujets, on va dire, loin des réalités d'église, mais dans lesquels il y a aussi des chrétiens, mais pas que. Avec autour du plateau Damien de Calaté, vous êtes scientifique, économiste et auteur de « Le pouvoir de la gratuité » paru aux éditions L'Harmattan. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, parlez bien près du micro. Martine Casals qui nous rejoindra un petit peu plus loin de la corderie d'Agen. Thomas Berthet, vous êtes conseiller mobilité à la Maison du Vélo à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Et Bernard Brunet, vous êtes membre actif du réseau francophone des communs. Bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro aussi. Tout le monde se met près du micro et tout ira bien.
Oui.
Cette économie du partage, donc, alors ce terme est, on va dire, très large, puisque j'ai même vu qu'on donnait ce nom pour les plateformes Uber et autres. Telle n'est pas l'intention de parler de cette réalité. J'aimerais juste commencer non pas avec vous, Damien de Calaté, mais peut-être avec nos deux autres invités férus de ces nouvelles réalités, ces nouvelles pousses, comme on disait peut-être encore au désert par trop avec Bernard Brunet en préparant l'émission. Qu'est-ce que vous citeriez, Bernard Brunet, comme exemple qui, pour vous, est emblématique de ce développement de, comme je le disais en introduction, de plus de partage, de solidarité, voire de gratuité? On parlait de Wikipédia.
Alors on peut parler de Wikipédia, on peut aussi parler du logiciel libre de Linux, mais Wikipédia, effectivement, c'est une encyclopédie mondiale en ligne rédigée par les gens une partie des gens qui l'utilisent, et c'est effectivement un accès gratuit au savoir, donc on est complètement dans la gratuité. Même chose pour les logiciels.
On sait le nombre de gens qui consultent Wikipédia.
C'est plusieurs centaines de millions, hein, certainement. C'est devenu, j'ai pas les chiffres tout à fait en tête, mais je pense que c'est écrit dans plus d'une centaine de langues et dans le monde entier. Et maintenant, l'Internet accède absolument partout et tout le monde utilise cet accès libre et donc gratuit au savoir. Et il en est de même pour ce qu'on appelle le monde du logiciel libre ou Linux aussi pour certains.
Réexpliquer en deux mots ce qu'est le logiciel libre.
Ce sont des logiciels, donc des systèmes informatiques qui permettent de travailler sur un ordinateur, mais qui, au lieu d'être payants, comme l'ont été longtemps ces logiciels qu'on achète parfois à prix d'or auprès de grands fabricants comme Microsoft ou d'autres, ils sont développés gratuitement par une communauté d'informaticiens à travers le monde et mis gratuitement à disposition des gens qui les utilisent.
Alors, difficile d'être exhaustif sur un sujet qui en plus recoupe de multiples réalités. Thomas Berthet, est-ce que vous auriez un autre exemple dont vous êtes familier? Je vous mets sur la piste. L'habitat coopératif, expliquez-nous en quelques mots ce que c'est peut-être.
Oui, j'habite une coopérative d'habitants à Toulouse. Il en existe encore assez peu en France, mais quelques-unes en Haute-Garonne déjà, et dans d'autres coins d'Occitanie aussi, où le principe est d'être individuellement simplement apporteur de parts, et donc c'est la coopérative ainsi créée qui achète l'immeuble ou l'ensemble de logements détenus, et chacun apporte ce qu'il peut en fonction de son patrimoine disponible pour payer ensuite mensuellement ce qu'il peut en fonction de ses revenus. Donc c'est un montage compliqué, c'est facile à résumer mais compliqué à réaliser, et par ailleurs chacun n'est pas seulement usager d'un logement mais également d'espaces communs, salles communes, ateliers de bricolage, buanderie, jardin extérieur, local à vélo ou que sais-je, selon ce que les groupes choisissent de partager, souvent des chambres d'amis par exemple, pour pouvoir accueillir à tour de rôle ses proches dans des volumes mutualisés.
Voilà deux exemples, on les déterra un petit peu dans l'émission, pour vous mettre en bouche. Donc on parlera des accorderies, voilà, vous allez découvrir ce que c'est des lieux de partage de services, dont on parlera de la Maison du Vélo à Toulouse, peut-être lieu emblématique aussi à sa manière, et on parlera aussi des communs. On va commencer avec vous, Damien de Calaté, pour essayer de prendre un peu de hauteur et de réfléchir autour du thème de la gratuité, puisque c'est le titre de votre ouvrage, Le pouvoir de la gratuité. Peut-être quelques commentaires autour de la gratuité. Vous dites dans votre livre que l'onérosité, alors c'est la première fois que je lisais ce mot, mais avait plus bonne presse que la gratuité. Vous citez entre autres l'eau, le sport, l'art, la beauté, autant de choses qui normalement sont, on va dire, devraient être d'abord mues par le principe de gratuité, aujourd'hui qui ne le sont pas. Tout a un prix, dites-vous. Est-ce que vous pouvez commenter ce passage de votre ouvrage ?
Je devrais d'abord commenter la gratuité, parce que tout le monde connaît la gratuité comme étant ne pas payer, sans prix. C'est le point de vue négatif. Il faut regarder la gratuité sur l'angle positif. C'est avant tout un bienfait, une bienfaisance. C'est le côté positif. Le fait qu'il soit spécial, il est sans prix, c'est-à-dire que cette bienfaisance est totale, elle est intégrale, elle n'est pas affaibli par la peine qu'on se donne pour obtenir quelque chose ou le prix qu'on se donne. Donc, d'abord, la gratuité a trait à quelque chose de bon, de bien, de bienfaisant. D'ailleurs, la famille des mots autour de la gratuité, qui se comprend agréable, agréé, congratulé, gracieux, grâce, gratitude, gracieux, dire merci, disent tous quelque chose de bien. Donc, tout se rapporte au bien.
Voilà, vous avez une expression dans votre livre, vous dites c'est un bien sans mal. Voilà, le beau, le vrai, le juste et le parfait.
Oui, oui, c'est un bien sans mal, c'est un bienfait sans peine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot peine a la même signification que payer, du moins la même étymologie. Donc, c'est une valeur sans, un bénéfice sans payer, sans dépense.
Alors, si vous voulez, on reviendra au développement hein, mais est-ce que si vous pouvez répondre juste peut-être pour contextualiser, parce que on vit dans un monde où la gratuité est relativement absente, et dans votre ouvrage, même si vous ne commencez pas par ça, vous rappelez que certaines réalités, quelque part, devraient être mues d'abord par la gratuité. Je citais par exemple le sport, l'art, autant de choses qui peut-être aujourd'hui ne sont pas d'abord mues par cette réalité, mais par cette autre expression, tout a un prix, tout se vend. Est-ce que vous pourriez commenter d'abord cela ?
Là, je crois que c'est l'économie libérale dans laquelle on vit qui s'empare de toutes les possibilités de s'approprier quelque chose et d'en tirer du profit, du bénéfice. Ce n'est pas intrinsèquement que l'art est gratuit ou n'est pas gratuit. C'est le fait que, par exemple, avec les nouvelles technologies, on peut s'accaparer le génome humain, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le temps. Donc vous voyez que la gratuité, ce qui était gratuit avant, peut ne plus devenir gratuit ou devenir pas gratuit dans certaines conditions et pas dans d'autres.
Alors vous avez une autre expression, vous dites « la gratuité perturbe l'ordre économique, elle y agit comme un grain de sable ». Est-ce que vous pouvez expliquer cela ? Est-ce qu'il n'y a pas au cœur en fait, de l'activité économique, de toute façon, un principe de gratuité ?
Non, c'est le contraire. L'économie, c'est la gestion des ressources disponibles. Et donc, la gestion, l'optimisation, la répartition, ça c'est le propre de l'économie. Les choses gratuites, par définition, ne peuvent pas rentrer là-dedans puisqu'elles ne sont pas, elles sont excédentaires, si je puis dire, elles ne sont pas appropriables. Par définition, elles ne peuvent pas faire partie de l'économie.
D'accord, donc pour vous, ça serait extérieur au principe économie. Est-ce que ça vous inspire un commentaire, l'un ou l'autre invité, Bernard Brunet ?
Qu'est-ce que vous pensez ? L'économie libérale, hein.
Qu'est-ce que vous pensez de cette notion ? Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, dans tout échange, à un moment, quelque part, un principe de gratuité ? C'est-à-dire qu'on prend moins le risque de l'échange, non ?
Oui, c'est vrai, ce que dit M. de Calatay, c'est tout à fait exact du point de vue de l'économie libérale. Ça n'est pas du point de vue d'une acception de l'économie qui serait, l'économie c'est répondre aux besoins des gens sur cette terre, quoi. De ce point de vue-là, nous dans le réseau des communs, on parle d'une économie des communs. Et si on regarde, j'en dirai peut-être un mot un petit peu plus tard, mais comment fonctionnent les communs au travers du monde, on s'aperçoit qu'il s'agit bien de ressources qui vont être partagées entre une communauté communauté de gens qui vont en avoir besoin et qui vont s'organiser pour la préserver, pour la développer, sans pour autant avoir la payer, surtout si c'est une ressource naturelle comme la terre, par exemple, ou comme l'eau. Donc, de ce point de vue-là, on est bien dans un fonctionnement économique, puisqu'on a besoin de la terre pour cultiver et pour manger, on a besoin de l'eau, et pour autant, on n'est pas dans une économie libérale, mais on est dans une vraie économie, de mon point de vue.
Alors, Damien Calaté, vous avez des expressions dans votre livre, j'aimerais que vous en commentiez certaines. Vous dites, en fait, la gratuité, c'est ce qui permet de manifester sa liberté et la bienveillance que l'on a dans le rapport à autrui. Est-ce que vous pouvez expliquer cette expression que vous avez dans votre ouvrage ?
La gratuité est un complément de la liberté, parce que la liberté humaine, c'est avoir la libre disposition, l'utilisation de ses propres capacités de penser, d'agir, de s'exprimer. Mais la gratuité, qui d'ailleurs se dit free en anglais, libre, participe à la liberté en ce sens que si c'est gratuit, c'est accessible. Tout à l'heure, on a dit l'accès libre à Wiki, à Linux. Donc la gratuité comporte en elle-même de la liberté d'accès au monde extérieur et complète la liberté qui définit plutôt sa liberté intérieure de faire ce qu'on veut faire.
Ça, c'est pour la liberté et pour la bienveillance. Est-ce que vous pouvez expliciter votre pensée ?
Votre question sur la bienveillance.
Sur la bienveillance. Vous dites dans votre ouvrage que la gratuité, c'est une manière aussi de manifester la bienveillance que l'on a dans le rapport à autrui. Est-ce que vous pouvez expliquer cela ?
Lorsqu'on fait preuve de gratuité, lorsqu'on produit une gratuité, autrui, ça fait du bienfait à autrui et c'est donc une bienveillance pour autrui.
Alors, dans votre livre, vous dites, j'ai relevé des choses intéressantes, c'est que souvent, en fait, en économie, la gratuité, c'est donc évidemment l'absence de valeur. Dans la justice, on entend parfois la gratuité comme quelque chose de blâmable, on dit que c'était un acte gratuit, ou en psychologie, peut-être un acte sans motif. Bref, on peut avoir une lecture de la gratuité qui est d'abord négative. Avant qu'on fasse une première pause, j'aimerais que vous nous expliquiez le rôle de l'État dans l'organisation, peut-être, de cette gratuité. Attention, votre téléphone, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous entendez par quel rôle l'État a-t-il pour essayer, non pas forcément d'organiser la gratuité, mais de faire en sorte qu'il y ait de l'espace pour la gratuité dans une société ?
Mais l'État est avant tout le garant des droits de l'homme. Il doit préserver les valeurs humaines essentielles, le respect du corps humain, le respect du bon usage du patrimoine commun, le respect des libertés individuelles. Le respect du partage des droits fondamentaux en ce qui concerne l'éducation, la santé, la justice, la sécurité. Donc le rôle de l'État est là très important.
Voilà, vous disiez aussi qu'il y a comme une forme de délégation, non pas forcément de la gratuité, mais de la solidarité, évidemment, dans toutes les réalités de solidarité collective. On pense aux retraites, etc. Merci beaucoup Damien de Calaté. On va faire une première pause. Je rappelle, vous êtes l'auteur de Le pouvoir de la gratuité, paru aux éditions L'Harmattan, et on va mettre après un coup de zoom sur différentes réalités.
Capella.
L'économie du partage, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec autour du plateau. Il y avait au début de cette émission Damien de Calaté, scientifique et économiste, auteur de Le pouvoir de la gratuité paru aux éditions L'Harmattan. Autour du plateau, Thomas Berthet qui est conseiller en mobilité à la Maison du Vélo à Toulouse. Martine Casals qui est de la corderie d'Agen que l'on salue, bonjour.
Bonjour.
Et Bernard Brunet, donc membre actif du réseau francophone des communs. On va commencer par cet exemple avec vous, donc à propos de la Maison du Vélo, Thomas Berthet. Comment vous nous présenteriez ce lieu qui se trouve donc à Toulouse, en face de la gare Matabiau, qui est donc la grande gare de Toulouse, dans un bâtiment, vous me disiez en préparant l'émission, des voies navigables de France. Ce n'est pas qu'un lieu de gratuité, mais qui a été pensé en partie autour de cela au début. Quelle présentation en général vous en feriez?
Je dirais de façon générale que la Maison du Vélo, c'est une association qui cherche à promouvoir et à développer l'usage du vélo, non pas par militantisme comme d'autres associations peuvent le faire ici et ailleurs, mais par une offre de services. Lesquels services peuvent pour certains d'entre eux être gratuits et d'autres payants, et c'est l'équilibre entre les deux qui permet à la structure de tenir debout et d'employer pas mal de monde. On est 17 salariés, plus une vingtaine de bénévoles, plus des volontaires du service civique ou des volontaires européens ou des jeunes condamnés à des peines d'intérêt général, et qui ensemble font tourner cette association et permettent par la pratique de mettre le plus de monde possible sur un vélo à Toulouse.
Alors il y a beaucoup de choses qui sont proposées, hein, location de vélo, des ateliers de réparation, vélo école. Juste avant qu'on détaille, quelle part la gratuité a eu dès le départ, c'est-à-dire quand ça a été conçu, vous étiez dit voilà, il faut trouver on va construire quelque chose qui est un modèle économique, mais au cœur on essaiera d'y garder un peu de gratuité. Et pourquoi peut-être l'avoir réfléchi comme ça?
Oui, de la gratuité et aussi du tarif réduit et très accessible. La location de vélo à prix de marché, par exemple, ne permet absolument pas de faire du vélo tous les jours. On peut, à la rigueur, si on a un salaire convenable, louer un vélo pour quelques jours pendant ses vacances, mais à ce prix-là, on ne tiendrait pas longtemps. Et donc, c'est par définition quelque chose comme les transports publics qui ne peut fonctionner qu'avec une subvention publique. Donc, dès le début, ces subventions publiques d'équilibre d'activité par définition déficitaire, était présente. Et l'existence de ces activités qui trouvent un équilibre, y compris grâce à la subvention, permet aussi de faire exister des choses comme un atelier participatif de réparation de vélos, où les adhérents, donc c'est pas complètement gratuit, il faut déjà adhérer, mais on a quand même un tarif social d'adhésion aussi, et ensuite on peut bénéficier gratuitement des conseils des mécaniciens bénévoles, qui donnent gratuitement de leur temps, et des outils qui sont là, qui sont mis à disposition gratuitement, des pieds pour percher son vélo, de l'espace qui est là, et simplement on a un magasin de pièces, donc ça, si on doit acheter une pièce, on peut aussi récupérer des pièces anciennes et puis mettre la somme qu'on veut dans un tronc si on récupère une pièce d'occasion. Mais voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aspect de gratuité à la Maison du Vélo? Les vélos-écoles aussi parfois sont gratuits. Est-ce
voilà,
qu'on peut expliquer ce que c'est que la vélo-école peut-être?
De public, la vélo-école est très comparable à l'auto-école. C'est vraiment le principe d'apprendre à faire du vélo ou d'apprendre à en faire mieux si on n'est pas à l'aise dans le trafic urbain.
Donc tant pour les adultes que pour les enfants?
Exactement, avec une subvention de Toulouse Métropole pour les interventions en milieu scolaire où on utilise à la fois le vélo comme véhicule au sens premier du terme pour apprendre à se déplacer, pour apprendre des notions de respect de l'autre, de code de la route, etc. Et puis c'est également un véhicule d'apprentissage, c'est-à-dire que l'après-midi c'est plutôt de la théorie en classe où on va utiliser l'objet vélo pour faire de la mécanique, pour faire de l'histoire, pour faire des mathématiques, pour faire tout un tas de choses en partant de la roue par exemple. Voilà pour l'exemple vélo-école enfant. Et puis pour ce qui est des adultes, on propose également des séances payantes d'apprentissage du vélo le soir ou le samedi, ou sur rendez-vous, mais on propose également une vélo-école sociale qui, elle, est subventionnée pour partie par le conseil départemental de la Haute-Garonne et qui permet à des ménages, à des personnes plus simplement éloignées de l'emploi, de se rapprocher d'une situation d'employabilité par une mobilité accrue grâce à l'apprentissage du vélo, grâce à un peu de mécanique vélo pour apprendre à entretenir ce véhicule une fois qu'on l'a. Et puis on va jusqu'à mettre à disposition un vélo pendant un an aux personnes qui ont suivi cette formation gratuitement. Et enfin, on leur donne les billes nécessaires pour utiliser leurs droits. Beaucoup de personnes éloignées de l'emploi sont également éloignées de la connaissance de leurs droits. Donc on leur fait visiter, on parcourt avec elles les guichets auprès desquels elles peuvent obtenir la gratuité des transports ferroviaires ou urbains, par exemple.
Voilà, c'est comme les accorderies. Il y a évidemment aussi une dimension solidaire et sociale. Donc ça n'est pas qu'un lieu gratuit, on l'a compris, hein, donc avec différents services. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un restaurant. logement, c'est ça, location de vélo. Donc il y a, enfin, il y a aussi des services payants, et c'est comme ça en tout cas que vous trouvez aussi un équilibre et que vous trouvez à salarier peut-être autant de personnes. Il y a une autre réalité, c'est que vous aidez. Alors vous me direz, c'est peut-être un peu loin de notre sujet, mais en même temps, souvent ces réalités s'entrecroisent. À passer, enfin, vous incitez les utilisateurs de la maison du vélo ou certains à faire une transition voiture-vélo. Expliquez-nous peut-être cette proposition.
Oui, on incite même beaucoup, à vrai dire, c'est l'objet principal de notre association. Le travail qui est le mien, par exemple, c'est d'amener des services vélos en entreprise, auprès des salariés, ça peut être les agents des collectivités également. Et une bonne partie de ces prestations sont gratuites aussi, sont offertes aux entreprises par un soutien, pour le coup, de Tisséo Collectivités.
Alors, c'est-à-dire, comment vous y prenez? Vous allez toquer à la porte des entreprises et vous...
Non, en général, alors, sur la gratuité, elles peuvent avoir appris elles-mêmes que c'était gratuit d'avoir un stand d'information pour leurs salariés sur les services vélos et les aménagements cyclables, par exemple, conseil d'itinéraire, etc., tous les services dont peuvent avoir besoin les salariés. Et puis, elles peuvent aussi s'être vues remettre un prix, un trophée pour leurs bonnes initiatives en matière de mobilité écologique, et du coup, se faire offrir les services de la maison du vélo grâce à une subvention de Tisséo Collectivités. Donc Tisséo Collectivités, pour les auditeurs qui seraient un peu plus loin de Toulouse, c'est l'autorité organisatrice publique de la mobilité sur l'agglomération toulousaine. Et ça permet de proposer à des employeurs des services, de les leur faire découvrir et au profit de leurs salariés, pour qu'ensuite, éventuellement, ces employeurs pérennisent ces opérations qui sont offertes pendant une durée limitée pour ensuite enchaîner.
J'imagine que vous n'avez peut-être pas toujours connu une activité dans ce type de réalité. Qu'est-ce que vous diriez quand il y a une part de gratuité au cœur d'une réalité économique? Qu'est-ce que vous diriez à titre personnel, Thomas Berthet, qu'est-ce que ça change en fait?
Ça change
la perspective,
ça change pas mal de choses. La gratitude n'est pas la même, effectivement. La relation est assez différente selon qu'on arrive dans une entreprise ou qu'on s'adresse à un particulier pour un service qui lui est offert. L'exemple, effectivement, des personnes qui acceptent volontairement de renoncer à leur voiture, moyennant le fait qu'on les conseille et qu'on leur prête un vélo pour quelques semaines, c'est quelque chose qui marche bien à Grenoble à une grande échelle, qu'on reproduit ici et dans différentes villes de la région, à Montauban, à Tarbes, etc., à une échelle un peu plus modeste. Mais voilà, là, on est dans un rapport d'échange et d'expérimentation ensemble, qui n'est pas le même rapport du tout que le rapport client-fournisseur, que nous connaissons aussi par ailleurs, puisque nous proposons des services payants.
Martine Casals, donc vous êtes de l'accorderie d'Agen. Alors, je vais essayer d'introduire ce que sont les accorderies et je vous laisserai après l'expliquer. C'est, semble-t-il, une réalité qui est née au Québec, qui là-bas est assez développée et qui a été conçue pour favoriser la mixité sociale et lutter contre l'exclusion. Comment vous nous présenteriez le concept des accorderies? Et entre autres, donc, après on détaillera son mode de fonctionnement, mais quel concept est-ce, Martine Casals?
Oui, bonjour. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce concept. Alors, l'accorderie, c'est un système d'échange de services entre personnes avec comme monnaie d'échange le temps. Le temps utilisé comme une nouvelle richesse accessible à tous permet de renforcer les solidarités, de favoriser la mixité sociale et d'améliorer la qualité de vie des accordeurs en leur permettant de développer leur pouvoir d'agir.
Alors, quand vous dites un échange de temps, ça veut dire quoi, en fait? Donc, c'est une forme d'échange de service, c'est ça?
Une heure reçue, c'est le principe de donner et recevoir. Je donne et je reçois.
Et donc, ça peut être pour une multitude de services? En fait, il y a quoi? Une espèce de plateforme? Chacun arrive avec ses compétences?
Voilà. Pour pouvoir échanger à l'accorderie, il faut d'abord adhérer et être accordeur et remplir un dossier, signer la charte et le code de courtoisie. Après, il y a on les livre des chèques temps, puisque quand on va échanger, il faut quand même une trace, donc c'est des chèques temps. Et après, on remplit la feuille d'offres et de demandes, c'est-à-dire ce qu'on va offrir comme service ou demander comme service.
Est-ce que vous pourriez donner des exemples de services qui sont rendus?
Alors, des services qui se font à l'accorderie à Genèse, puisqu'on est ouvert, nous, depuis 2016. À ce jour, nous sommes 220 accordeurs. Et donc, les services proposés, c'est la réparation de petits électroménagers, l'aide au bricolage, au repassage, à l'initiation à l'Internet, du jardinage, le soutien scolaire, le covoiturage, l'accompagnement aux courses, puis aide au déménagement, préparation de votre gâteau d'anniversaire, de bûche. Il y a plein de services. Et après, si quand l'accordeur, le nouveau accordeur à l'inscription, c'est pas trop, et bien on a un catalogue où il y a 300 offres de services qui permet de... Parce qu'il y en a qui ne savent pas trop ce qu'ils peuvent offrir ou demander. Voilà.
Donc, il n'y a pas d'argent, c'est toujours sur le système de l'échange, et ce n'est pas du bénévolat aussi.
Le seul moment où il y a de l'argent en jeu, c'est par exemple quand on a besoin d'aller, il y en a qui n'ont pas de voiture, et qui ont besoin d'aller, par exemple, 50 km en dehors d'Agen, à ce moment-là, ils partagent les frais du gasoil. Voilà. C'est le seul moment où alors, quand un accordeur propose un service pour préparer un gâteau d'anniversaire, par exemple, si l'accordeur qui demande n'amène pas les ingrédients, mais c'est celui qui crée, qui va fournir les ingrédients et il donnera une facture et celui qui a demandé, il remboursera les frais. Voilà.
Donc pas d'argent. Donc pas d'argent en équipe des échanges et donc c'est à ne pas confondre avec du bénévolat. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples quant aux bienfaits de ce type d'accorderie? Ça a été pensé donc pour favoriser la mixité sociale ou lutter contre l'exclusion. Est-ce que vous avez des exemples de gens qui font partie de l'accorderie d'Agen et qui justement sont dans cette intention de départ?
Alors répétez, s'il vous plaît,
oui,
la question.
Les accorderies ont été conçues pour favoriser la mixité sociale ou lutter contre l'exclusion. Oui. Est-ce que vous avez des exemples de gens dans les accorderies qui, justement, sont sortis de l'exclusion en partie grâce à l'accorderie d'Agen?
Voilà. Alors nous, ce qu'il y a à Agen, c'est que nous recevons tous les accordeurs, tout le monde vient à l'accorderie. Et on a des accordeurs qui sont venus à l'accorderie pour essayer de se remettre dans la relation, dans l'ouverture à l'autre, et essayer de se réintégrer dans la vie associative, parce qu'ils ont passé une période difficile. Donc nous, à l'accorderie, c'est vrai qu'on est ouvert, on est accueillant et contenant. Et donc, les personnes-là, on en a eu deux ou trois, et entre autres une qui, au départ, elle n'osait pas trop, elle était très, très renfermée, et maintenant, c'est une personne qui est à l'animation, à la commission d'animation, et qui, elle, donne les idées pour décorer, puisque on fait des soirées conviviales à thème tous les mois, et tous les mois, on change de thème, et donc, cette personne, elle est à l'initiative de la décoration du local. Alors, c'est une fois, c'est Halloween, après c'est le Noël, la rentrée, la musique, tous ces thèmes-là qui peuvent meubler le local.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup Martine Casals d'avoir présenté cette accorderie d'Agen. Oui, ces accorderies qui sont donc présentes un peu partout en France.
Avec plaisir, si vous voulez, oui. Je vais vous passer à Agen, venir nous voir.
Voilà, évidemment.
Merci. Alors, nous sommes au centre-ville.
Voilà. Ne raccrochez pas, madame, l'émission n'est pas finie. Voilà, il faut rappeler donc que les accorderies se développent en France en partenariat avec la Fondation Massif. Pour finir, avant qu'on fasse une deuxième pause, donc un site internet www.accorderie.fr et pour la Maison du Vélo aussi, donc en face de la gare Matabiau à Toulouse, et on peut s'inscrire à une newsletter. On fait une deuxième pause et on va parler des communs.
Emmanuel Pella.
L'économie du partage, c'est donc le thème de l'émission de ce matin, avec autour du plateau, donc il y a au début de l'émission, Damien de Calaté, auteur entre autres donc de Le pouvoir de la gratuité paru aux éditions L'Armatan, Martine Casals de la Corderie d'Agen, Thomas Berthet, conseiller mobilité à la Maison du Vélo à Toulouse, et Bernard Brunet, donc membre actif du réseau francophone des communs. On avait fait une émission avec vous, donc vous me rappelez, c'était en 2015, une émission très intéressante sur les communs, réalité très mal connue. Émission qu'on a souvent rediffusée, mais tout le monde n'écoute pas cette émission tous les jours. Si vous deviez présenter les communs, je vais essayer d'introduire avec les souvenirs que j'ai de l'émission qu'on avait faite. On a toujours l'idée qu'il existe en fait deux grands types de propriétés, la propriété publique et la propriété privée. Or, depuis longtemps, il existerait en fait une autre forme, pas forcément de propriété, mais en tout cas d'usage, que sont les communs. Alors faites-nous peut-être une introduction d'abord, les communs pour les nuls, et après j'ai de multiples questions.
Alors tout à fait, c'est exactement ce que vous venez de décrire. L'idée des communs, les communs, c'est beaucoup plus ancien en fait que la propriété publique et que la propriété privée. C'est la toute première forme d'utilisation des ressources par les gens sur cette terre qui se sont pas appropriés, mais qui ont utilisé des ressources comme l'eau, des ressources comme la terre pour cultiver, des ressources aussi comme la faune pour chasser ou la flore pour tout ce qu'ils pouvaient trouver pour manger, sans se poser la question de savoir si c'était public ou privé. Simplement, ils se sont rendus compte assez vite qu'une partie de ces ressources étaient des ressources limitées et que pour pouvoir les utiliser, en bénéficier dans le temps, il fallait qu'ils apprennent à les gérer
collectivement et non pas
à les gaspiller immédiatement, auquel cas ils n'auraient plus de quoi vivre au bout d'un temps très très rapide.
Alors on reprendra un certain nombre d'exemples, mais est-ce que vous pouvez en citer quelques grands de communs?
Alors on parle de communs, on parle de biens communs aussi, hein, mais c'est les...
J'aurais une autre question là-dessus sur la distinction entre
le commun et le bien commun, mais disons que on peut les classer dans trois grandes catégories. Les communs naturels, je l'ai évoqué rapidement, la terre, l'eau, l'air, le climat, puisque c'est une question éminemment d'actualité. Les communs matériels, alors ça peut être, on donnera des exemples tout à l'heure, un jardin partagé ou une coopérative d'habitants. Et surtout, les communs immatériels, c'est l'avènement du numérique et d'Internet qui a permis de remettre au goût du jour cette notion de commun.
Donc, c'est-à-dire
parce
savoir,
que, voilà, et contrairement à les communs immatériels, ne sont pas une ressource finie. C'est une ressource qui est accessible à tout le monde et plus j'en prends, je peux en prendre autant que j'en veux sans appauvrir ni la ressource, ni mon voisin. Et c'est ça qui a permis de complètement relancer cette réflexion autour des communs et d'une autre forme d'usage et de propriété.
Quelle différence vous feriez entre les communs et le bien commun? J'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas confondre les deux. On parle souvent du bien commun à cette antenne, hein, qui est un thème qui est cher à l'Église, cher aux chrétiens. Quelle distinction vous feriez?
Alors, grosso modo, c'est la même chose, mais c'est vrai que le bien commun ramène plus à une notion de quelque chose de matériel plutôt que de quelque chose d'immatériel. Et puis, c'est les anglo-saxons qui appellent ça les commons, donc pour pouvoir discuter entre nous et avoir une même appréhension, un même concept autour des communs, on parle aujourd'hui plus volontiers des communs, au sens où on donne trois définitions, hein, pour les communs. C'est d'abord une ressource, comme je l'ai dit, naturelle, matérielle ou immatérielle. C'est ensuite, je dirais, de manière nécessaire, une communauté de personnes, d'usagers, qui vont utiliser, préserver, développer cette ressource. Et c'est enfin, et c'est tout aussi important, des règles qu'ils vont se donner ensemble, donc ce qu'on appelle aujourd'hui une gouvernance, c'est-à-dire une manière de fonctionner ensemble pour pouvoir à la fois accéder à cette ressource et en même temps en préserver l'avenir et le développement.
Voilà, j'avais noté ce qui corrobore ce que vous venez de dire, les principes généraux. Maintenir la possibilité d'un accès à une ressource sur le long terme, l'accès équitable, la transparence et la responsabilité commune. Et puis, évidemment, trouver à identifier et punir les usages abusifs. Si on fait un petit peu d'histoire, c'est ce que vous aviez fait quand on vous avait invité il y a 2-3 ans. Vous avez parlé de l'Angleterre. Une date clé, semble-t-il, pour comprendre les communs, c'est la révolution agricole britannique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors oui, c'est particulièrement intéressant. Jusqu'au XVIIe siècle, donc approximativement, même plus exactement le XVIIIe siècle, la plupart des terres en Angleterre étaient des terres communales, c'est-à-dire que les habitants d'un village pouvaient librement aller pâturer ces terres pour pouvoir nourrir leurs bêtes. Des bêtes d'ailleurs qui étaient en petit nombre et qui étaient essentiellement destinées à l'autosubsistance des familles. Et puis la révolution industrielle est arrivée, et avec elle, la naissance de l'industrie textile en Angleterre, dont on sait l'avenir qu'elle a eu et la richesse et la puissance qu'elle a donnée à l'Empire britannique plus tard. Et donc, il a fallu pour ça augmenter la productivité. Et un certain nombre de lois ont été prises par le Parlement britannique pour effectivement... expulser d'une certaine manière les gens qui utilisaient depuis des siècles ces prairies, ces pâturages communs, et on les a pour ça entourés de murs, on a appelé ça les enclosures, hein. D'ailleurs quand on survole l'Angleterre on voit à quel point le parcellaire est complètement entouré de murets partout dans toute la campagne anglaise, et de façon à ce que on puisse y mettre beaucoup plus de bêtes, notamment de moutons, pour pouvoir produire de la laine en grande quantité et alimenter les usines. Et ce faisant, on a exproprié d'une certaine manière les gens qui l'utilisaient. De paysans, ils sont devenus ouvriers dans les pires des conditions, vous imaginez bien, à la fin du 18e et au début du 19e siècle dans ces usines. Et donc, il y a eu une appropriation privée, soit par l'État, soit par des propriétaires privés, de ces terres communes. Et ça a été le début de la fin des communs.
On imagine souvent que dans les sociétés primitives, on avait comme une forme naturelle de gestion des communs. Est-ce que vous pouvez prendre des exemples à travers le monde qui montrent qu'il y a une persistance, on verra peut-être le développement après, de ces communs, quelques réalités. J'avais souvenir que vous avez cité des villes au Moyen-Orient où tout le système de distribution d'eau était un commun, entre autres.
Alors voilà, des villes, mais aussi des territoires ruraux, puisque un des exemples les plus parlants des communs, c'est les systèmes d'irrigation, notamment dans les zones de montagne. L'eau, bien sûr, coule au travers des torrents, mais pour pouvoir irriguer les cultures et même les pâturages, depuis des temps immémoriaux, les gens ont construit des canaux de dérivation, donc ils prennent l'eau en amont, et puis il y a des petits canaux qui courent à flanc de coteau et qui sont munis régulièrement de petites trappes, de petites écluses qui permettent de distribuer cette eau
tout au long des parcelles. Entre autres dans les Pyrénées,
il en existe dans les Pyrénées, dans les Pyrénées orientales, il en existe beaucoup encore dans les Alpes du Sud, par exemple, il en existe dans le monde entier, et c'est resté une ressource qui est gérée exactement comme un commun, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à l'État ou à la commune, elle n'appartient pas non plus individuellement aux propriétaires des parcelles qui sont sur le chemin, mais elle est gérée collectivement par ses utilisateurs qui, chaque année, vont décider à quelle période qui va pouvoir prendre quelle quantité d'eau, de façon à ce que cette ressources soient à la fois préservées et utiles pour tout le monde. Et de la même manière, ils vont une ou deux fois par an faire des espèces de chantiers collectifs pour pouvoir entretenir et améliorer ces canaux. C'est des systèmes qui subsistent encore aujourd'hui.
Est-ce que vous auriez d'autres exemples à travers le monde de certains communs un peu frappants comme ça qui peuvent...
Alors, il y a des choses qui sont très intéressantes parce qu'on se dit que lorsque, justement, il n'y a pas de propriétaire, a priori, ça risque d'amener au gaspillage. C'est-à-dire que l'homme étant ce qu'il est, il va viser d'abord son intérêt personnel. On s'aperçoit que sur des territoires immenses, je pense aux steppes d'Extrême-Orient, qui sont aussi des territoires écologiquement très fragiles et qu'on photographie aujourd'hui en permanence par satellite, on se rend compte que là, par exemple en Mongolie, où l'État chinois a collectivisé, donc a rendu public ces terres, elles sont dans un état de dégradation avancée, de la même manière que là où des entreprises privées, notamment pour faire l'extraction minière, ont privatisé ces terres, c'est aussi dans un état de dégradation avancée. Et partout où la steppe a gardé sa biodiversité, sa couverture végétale, c'est là où les populations autochtones gèrent encore cette ressource extrêmement fragile comme un commun, y compris d'ailleurs en cherchant un équilibre parfois très délicat entre la faune sauvage et les animaux qu'ils élèvent pour arriver à préserver cette ressource et à la gérer.
Pour finir, est-ce que vous pourriez nous parler du développement actuel ? Parce que s'il y a ce réseau que vous décrivez, réseau donc francophone des communs, c'est que nombre de personnes, j'avais souvenir qu'en tout cas c'était à une occasion particulière, un festival je crois, qu'on ait fait cette émission, c'est qu'un certain nombre de personnes travaillent aujourd'hui à redévelopper ces communs, et ce depuis quelques années, entre autres suite au prix Nobel d'économie qui a été donné donc à Elinor Ostrom. Voilà, femme prix Nobel, semble-t-il première femme prix Nobel, si j'ai bien compris.
D'économie, oui.
Et donc, ça a aidé alors, à la visibilité des communs. Alors, parlez-nous peut-être rapidement de cette femme et de ce qui germe à droite à gauche autour des communs.
Alors oui, ça a été vraiment un tournant qui a été favorisé aussi par, j'expliquais tout à l'heure, l'arrivée d'Internet et du numérique. Mais Elinor Ostrom, donc, était économiste américaine, a passé toute sa vie professionnelle à étudier justement sur le terrain, dans le monde entier, la façon dont des communautés locales géraient des ressources, essentiellement des ressources naturelles, mais aussi dans certains cas des ressources matérielles, et ce pour contrer une théorie qui avait été développée par un autre économiste dans 1968 avec un article qui était resté célèbre et qui s'appelait « La tragédie des communs » et qui essayait au contraire de montrer que si on laissait quelque chose sans propriétaire, eh bien naturellement on allait arriver au gaspillage de cette ressource qui allait très, très, très vite arriver à son épuisement. Et donc Elinor Ostrom a montré par les travaux scientifiques sur le long terme, qui lui ont donc valu ce prix Nobel, à quel point c'était faux, et à quel point lorsqu'une communauté se donnait un certain nombre de règles qu'elle a définies dans son œuvre académique, à quel point lorsqu'on donnait un certain nombre de règles, on pouvait gérer cette ressource en commun. Et donc cette renaissance de la notion des communs est arrivée en même temps que la possibilité d'accéder au travers d'Internet et du numérique à une ressource illimitée, et on est passé d'un concept de l'économie qui est ce qu'on appelle l'économie de la rareté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de ressources et il faut la partager, et la meilleure manière de la partager c'est de faire en sorte que le marché, la main invisible du marché alloue cette ressource en permanence, à un concept plutôt de l'abondance, puisque aujourd'hui encore une fois, c'est pas parce que vous allez chercher une information sur Wikipédia que vous appauvrissez la ressource, au contraire, vous ne pouvez que l'enrichir, et donc un certain nombre de systèmes se sont développés aussi grâce à ça, comme ceux que j'évoquais en début d'émission autour du logiciel libre ou de l'encyclopédie.
Est-ce que vous diriez pour finir que les communs ont un bel avenir, et si oui, quel serait cet avenir ? Est-ce que ça a vocation à rester une réalité marginale selon vous ?
Alors quand on voit les problématiques auxquelles est confrontée l'humanité aujourd'hui, notamment en matière écologique, en matière sociale, en matière d'inégalité, en matière du climat également, beaucoup et de plus en plus d'économistes, de philosophes, de penseurs imaginent que la seule manière effectivement de s'en sortir, c'est de réhabiliter cette notion de commun et de faire en sorte que ce soit nous-mêmes, les habitants de cette planète, mais aussi localement, qui nous saisissions de la réflexion sur cette ressource, et plutôt que de la laisser à un État qui est parfois un petit peu lointain et un petit peu déshumanisé, et surtout de la laisser au marché qui lui a clairement affiché des intentions de profit immédiat et dont on voit bien les conséquences que ça a, d'essayer justement de réhabiliter cette notion de gestion communautaire des ressources qui sont les nôtres, et surtout des ressources en faisant en sorte qu'elles puissent aussi bénéficier à nos enfants et à nos petits-enfants, et qu'on ne les épuise pas aujourd'hui. Donc c'est certainement une façon d'envisager l'économie, d'envisager les ressources, qui peut être une des solutions pour nous éviter d'aller à la catastrophe.
Eh ben, merci beaucoup. Donc les communs à découvrir, pareil, un site internet www.les-communs-d'abord.org. Merci à tous mes invités ce matin d'être venus pour essayer de parler, on va dire, de ces nouvelles réalités, chacun comme il est et avec ce qu'il développe. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Calaté, « Le pouvoir de la gratuité » paru aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.